Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Bonjour les amis, c'est Anne Guéquière. Saviez-vous que seulement 29% des effectifs du numérique en France étaient des femmes ? Ada Tech School, que j'ai le plaisir d'accueillir comme sponsor de cet épisode, s'est engagée à changer cette réalité. Inspirée par Ada Lovelace, qui est la pionnière de la programmation informatique, cette école féministe et inclusive offre une formation unique de 21 mois, dont 12 en alternance pour devenir développeur ou développeuse, sans prérequis techniques ni académiques. Alors si vous souhaitez vous reconvertir dans un secteur vraiment porteur, où votre contribution peut façonner l'avenir, Ada Tech School vous attend. L'école est à Paris, mais aussi à Lyon et à Nantes, et il y a 3 rentrées par an. Et la prochaine rentrée, les amis, est le 27 mai 2024. Il reste encore quelques places, alors pour candidater, rendez-vous vite dès maintenant sur le site adatechschool.fr. Bienvenue dans la saison 6 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences.
Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h.
Certains d'entre nous ont besoin de vivre un choc existentiel pour se réveiller. C'est ce qui arrive à Eric, le héros du nouveau roman de mon invité, confronté à sa propre mort en Corée. Eric renaît à la vie. Il prend conscience de l'importance de trouver du sens à ce qu'il fait, que ce soit dans sa vie perso ou pro, d'être aligné avec ses valeurs et disponible pour les gens qu'il aime, de se libérer de sa culpabilité et du regard des autres. De retour en France, il reprend sa vie en main et passe à l'action pour permettre aux autres de vivre la même épiphanie que lui. Vous aurez peut-être reconnu l'intrigue du nouveau roman de mon invité, La vie heureuse, publié chez Gallimard. Je suis ravie de recevoir pour la première fois dans Métamorphose, David Fuenquinos. Bonjour.
Bonjour Anne, j'aime bien l'idée que ce soit la première fois, ça veut dire que vous allez me réinviter ?
Bah ouais, carrément. Merci en tout cas d'être là, je sais, on en a parlé un peu hors antenne, en tout cas on se l'est écrit, vous avez déjà beaucoup dit sur ce nouvel ouvrage qui est plus peut-être si nouveau que ça pour vous. Alors La vie heureuse, pourquoi ce titre ? Est-ce qu'il faut chercher à être heureux coûte que coûte selon vous ?
Ah, c'est une question intéressante. On enregistre en plus le matin, donc je me réveille un petit peu. Donc je vais laisser mon cerveau s'illuminer, doucement, progressivement, j'espère. Mais pour moi, d'abord, c'était un lien avec Sénèque, avec De la vie heureuse. Le titre est vraiment en lien, et on le comprend dans le livre, avec l'idée aussi de la dépossession de certaines choses, d'aller vers l'essentiel. Et je pense que c'est le questionnement peut-être central du livre, c'est-à-dire... on n'est pas forcément, enfin, il est évident qu'on n'est pas toujours traversé par des moments de joie ou de tentatives d'atteindre cette joie, mais que l'interrogation sur son propre épanouissement est quelque chose d'absolument fondamental. Et c'est vrai que tous mes personnages dans le livre vont s'interroger à un moment donné ou à un autre et prendre des décisions. Et c'est l'idée aussi de reprendre possession de son destin.
Vous êtes l'auteur, hein, pour celles et ceux qui vous connaissent peut-être un peu moins, depuis une quinzaine de romans best-sellers. Vous faites partie du top des auteurs de romans français. Alors parfois, sous leur apparente légèreté, hein, vous touchez des thèmes extrêmement profonds. C'est vrai que ce livre, La vie heureuse, ne fait pas exception. Vous y évoquez la question de se confronter à sa propre mort pour mieux renaître à la vie. Alors vous-même, je crois, avec côtoyer la mort aux alentours de 16 ans. Vous contractez, je crois, une infection à la plèvre qui vous envoie directement à l'hôpital. Vous passez plusieurs mois. Est-ce que vous pourriez dire que depuis cet épisode, cet événement, vous vivez comme une seconde vie ? Est-ce que ça a réveillé véritablement quelque chose en vous, David ?
Complètement. C'est vraiment totalement et d'une manière absolue une seconde vie. C'est-à-dire qu'après cette expérience de mort et les longs mois à l'hôpital, j'ai le sentiment d'être d'être devenu une seconde personne, animée par un désir de beauté, de sensibilité. Je me suis mis à lire, à écrire, alors que j'étais un adolescent, pas du tout intéressé par les livres, et n'ayant pas grandi dans un milieu culturel. Et c'est vrai que cette soumission comme ça, à partir de ce moment-là, à la beauté, ou en tout cas à tout ce qui pouvait me toucher émotionnellement, a été vraiment un point de départ. Et depuis, j'y suis constamment et d'une manière indélébile attaché. Je pense que c'est un des sujets du livre, effectivement, l'idée que quand on est confronté à la mort, ou en tout cas à l'éphémère ou à la gravité de certaines situations, on ne peut pas en ressortir indemne et on a un rapport absolument différent à la vie, au jour. Et j'ai le sentiment, vous avez dit tout à l'heure que c'est vrai que certains de mes livres avaient de la gravité, d'autres de la légèreté. Je pense que je fais en permanence cet aller-retour entre des livres plus graves comme Charlotte ou Vers la beauté, des livres avec davantage d'humour. Mais le point commun, c'est cette nécessité... cette nécessité d'aller chercher la beauté en toute chose.
Alors la beauté, évidemment, on en reparlera. Je me pose quand même cette question. Est-ce que ce qu'on pourrait appeler, si on fait référence à Boris Cyrulnik, les grands résilients sont de plus grands vivants que finalement ceux qui ne passent pas par cette urgence de la vie d'une manière ou d'une autre? C'est vrai qu'on voit que dans les profils de personnes qui ont vécu soit des expériences de mort imminente, soit quelque chose de dramatique dans leur vie, il y a une espèce de résurgence, comme ça, de sursaut de vie, assez stupéfiant, je trouve.
Oui, vous avez raison. Après, certaines personnes sont dotées d'une vitalité exceptionnelle et innée, et tant mieux pour elles, mais je veux dire, on n'est pas forcément obligé de traverser la gravité pour atteindre cette forme de légèreté, ou en tout cas de tentative de rapport joyeux ou cette façon d'essayer de voir le bon côté des choses. Moi, de mon point de vue, il est clair que la longue expérience de la maladie, la rencontre précisément physique avec la mort, m'a propulsé totalement dans cette énergie-là. Donc j'aime beaucoup Cyrulnik et je le comprends tout à fait. Et il n'est pas anodin que, quand j'ai entendu parler de ce rituel coréen, qui est un véritable phénomène en Corée du Sud, qui est au cœur de mon dernier livre, j'en ai été particulièrement bouleversé, parce que en lisant les commentaires de tous ceux qui pratiquaient ce rituel, c'est-à-dire de vivre physiquement sa mort, il était question beaucoup de seconde vie, de seconde chance, de renouvellement de ses possibilités vitales.
C'est vrai que peut-être pour décrire votre héros, Eric, vous le décrivez en disant qu'il semblait un peu en vacances de lui-même. J'aime bien que son physique avait pris la trajectoire d'un renoncement, ou encore qu'il avait l'air d'un homme enfermé à jamais dans le mois de novembre. Alors j'adore vos formulations.
On peut ajouter. Oui, ça fait beaucoup pour un seul homme.
C'est ça. Et on peut ajouter en plus qu'il était divorcé, qu'il a démissionné de son rôle de père, etc. Pourquoi est-ce que vous l'avez comme ça chargé à ce point? Et en même temps, ça reflète certainement un certain nombre de parcours de vie qui montrent qu'on ne sait pas toujours tout d'une personne.
Oui, complètement. Alors, je l'ai chargé, c'est vrai, effectivement, un petit peu au début. On le découvre dans une forme de mélancolie extrême, et puis on comprend assez vite qu'il est traversé par la culpabilité. On comprend un peu plus tard dans le livre pourquoi. Mais c'est aussi quelqu'un qui a été dans la réussite, qui a gravi tous les échelons. Il bosse chez Decathlon. Alors bon, c'est vrai qu'il en a un peu marre que tout le monde lui dise alors à fond la forme, alors qu'il est lui-même dans un moment plutôt difficile de sa vie. Mais ce qui m'intéresse souvent dans les romans, peut-être d'une manière un peu appuyée, un peu trop parfois peut-être, mais ce qui m'intéresse, c'est l'idée du cheminement. C'est-à-dire que comment ce personnage-là, qui est traversé par des difficultés, va se réinventer. Et c'est vrai que c'est un livre qui est vraiment marqué par la réinvention de soi-même, pour lui, pour d'autres personnages aussi. Et c'est vrai que c'est une énergie qui me paraît incroyablement contemporaine. C'est-à-dire que jamais aucune époque comme ça n'a été traversée par le désir de changer de vie. Moi, je vois partout autour de moi des gens qui changent de trajectoire.
Le fait d'avoir écrit sur ce processus de la mort, en fait, ça a reconnecté quelque chose en écho avec ce que vous aviez vécu quand vous aviez 16 ans?
Alors j'ai le sentiment que je n'ai jamais été déconnecté de ce moment-là. Et c'est vrai qu'il y a par exemple un grand moment de bascule dans ma vie. C'est la publication de La Délicatesse. J'avais 36 ans, je publiais depuis 10 ans des livres plutôt confidentiels. Et subitement, le public s'est emparé de ce livre d'une manière assez impressionnante, très surprenante pour moi, inattendue. Et puis il y a eu aussi le film avec Audrey Tautou et François Damiens. Et on m'a souvent posé la question de savoir d'où venait cette histoire d'amour entre une veuve et un Suédois dépressif. Et je me suis rendu compte progressivement que j'y avais transposé ma propre histoire, celle d'un deuil et d'un retour à la vie. J'avais eu beaucoup de lettres, de messages sur Facebook à l'époque de femmes qui étaient veuves, qui avaient perdu leur mari, qui me demandaient comment j'avais pu m'approcher de leur sentiment le plus intime. Et c'est vrai que je pense que je n'ai cessé d'écrire autour de cette histoire. Donc, j'ai jamais vraiment été déconnecté. Quand plus tard, j'ai été absolument fasciné, toujours d'ailleurs, par la peintre Charlotte Salomon. Quand j'ai écrit mon livre Charlotte, c'est une vie qui est traversée, et une œuvre qui est traversée en permanence par la mort et la tentative de s'extirper de la douleur et de la mort et de la folie par la beauté, par la création, par la sensibilité. Donc, en filigrane, j'ai le sentiment que c'est toujours présent. Là, sur ce dernier livre, c'est vrai qu'avec le rituel de mort et de renaissance, je m'y confronte pleinement, d'une certaine manière, droit dans les yeux.
Alors, ce personnage, Eric, en face de lui, il y a un contraste avec une femme, votre deuxième héroïne, Amélie, qui est directrice de cabinet du secrétaire d'État au commerce extérieur. Alors, il est assez saisissant parce qu'elle, tout semble lui sourire, tant professionnellement que personnellement, même si, comme vous l'avez dit, lui aussi a une très belle carrière chez Decathlon. Elle a un mari, deux filles. Alors, sans dévoiler ce qui va se passer dans le roman, on peut dire qu'elle n'est pas véritablement heureuse. Et là, vous vous attaquez sec aux apparences. Qu'en apparence, sur le papier, on peut avoir ses vies heureuses. Et finalement, vous abordez ce problème des masques et personnages qui nous habitent, toutes ces voix qui sont à l'intérieur de nous et qui forment nos apparences et qui ne sont pas véritablement qui nous sommes, en fait, à l'intérieur.
Oui, c'est un des thèmes vraiment du livre. C'est très juste. Moi, j'aime beaucoup ce personnage, même s'il paraît marqué par l'ambition, par le désir de réussir. D'abord, ce sont des valeurs que j'apprécie énormément et je la sens très motivée pour servir son pays. Il y a quelque chose de très, très beau et très, très juste, je trouve, dans son excitation du pouvoir ou de la lumière. Et elle me touche particulièrement. Elle va être vraiment confrontée à la désillusion, à la violence du milieu politique. Mais là où vous avez raison, c'est aussi, effectivement, totalement une réflexion sur les apparences. Quand on parle de vie heureuse, on ne peut pas faire l'économie de ce qui est au cœur de notre monde contemporain, de notre vie contemporaine, qui est en permanence l'affichage du bonheur ou du prétendu bonheur qu'on peut avoir. On est dans une époque, peut-être la première époque d'ailleurs de l'humanité, si j'ose dire, où on a accès d'une manière aussi folle, aussi démente à la vie des autres. Alors, souvent, la narration de la vie des autres. On ne peut pas estimer que ce qu'on voit sur Instagram ou sur Facebook ou sur les réseaux sociaux soit totalement la vérité. Mais on définit son propre bonheur, sa propre vie heureuse, à l'aune de ce que peuvent vivre les autres. Et ça, c'est pour la première fois. Je trouve qu'on peut se poser la question, est-ce que je suis vraiment heureux si je vois les autres autour de moi encore plus heureux? Donc il y a comme ça une sorte de compétition de l'apparence, très souvent qui modifie notre propre rapport à l'épanouissement. Et il me semble que une des possibilités du bonheur, c'est de se détacher totalement du regard des autres. Moi, je sais que c'est un chemin que j'essaye de faire progressivement, ce qui n'est pas toujours évident quand on est un auteur qui est lu, qui est aimé, pas aimé, jugé, critiqué, qui est dans la lumière d'une certaine manière, pas tout le temps, parce que après les périodes de promotion, je retourne dans mon lit et je me reconnecte avec mon côté scorpion, l'ombre du scorpion. Mais je pense que une des possibilités de la vie heureuse, puisque vous me le demandiez aussi tout à l'heure, c'est de se libérer du jugement des autres.
Est-ce qu'on peut être complètement détaché du regard de l'autre? Parce que l'autre est un autre jeu, hein, comme disait je ne sais plus quel philosophe. On vit aussi à travers l'autre, en fait, façonne d'une certaine manière qui nous sommes. Que ce soit évidemment à travers cette comédie humaine, mais aussi peut-être de manière plus fondamentale, il nous révèle aussi à nous-mêmes.
Oui, c'est vrai. Moi, je pense que c'est totalement possible. Je pense qu'on va, progressivement, d'ailleurs, je pense se détacher de cette course à la comparaison, de cette frénésie d'une certaine manière de l'apparence, et que je pense qu'on va aller de plus en plus vers des choses simples. On va retourner aussi vers la lenteur. J'ai le sentiment qu'il y a tout un nouveau monde qui arrive, c'est mon sentiment. Je pense que le bonheur, justement, doit être à rebours de la frénésie. C'est pour ça, par exemple, je suis assez surpris. Enfin, on parlait il y a quelques années, par exemple, de la mort de la littérature. En tout cas, on voyait bien, moi, quand je faisais des dédicaces, un lectorat extrêmement vieillissant, que la littérature intéressait de moins en moins les gens, qu'il y avait de moins en moins d'émissions littéraires. Et puis progressivement, notamment avec les réseaux sociaux, c'est tout le paradoxe, mais il y a beaucoup de jeunes, notamment sur TikTok, qui parlent des livres, qui se mettent vraiment à lire. J'ai le sentiment qu'il y a une vague qui n'était pas du tout attendue, d'un retour vers la profondeur, vers l'intime, une sorte de rapport lent aux choses de la vie. Et j'ai le sentiment qu'on est dans le début d'une... Je n'allais pas dire d'une nouvelle époque, mais d'un retour vers des choses assez concrètes et profondes.
Ça a peut-être été accéléré aussi par la pandémie, dont vous parlez beaucoup dans cet ouvrage. D'ailleurs, est-ce que vous l'avez écrit pendant ou post-pandémie ? Petite parenthèse.
Non, je l'ai écrit après. Hein. C'est un livre plus récent. Oui. Mais effectivement, vous avez raison. Parce que tout à l'heure, quand je parlais de la vie heureuse, c'est interrogé sur l'essentiel, sur ce qui est important pour nous ou pas. Être confronté à la pandémie, c'est-à-dire à quelque chose d'extrêmement anxiogène, d'extrêmement grave, d'extrêmement violent, avec beaucoup de morts, c'est exactement dans le sujet du livre. C'est l'idée que, confronté à cette situation hors norme, il y a eu forcément des décisions. J'en parle un tout petit peu dans le livre, effectivement, mais quand on voit, par exemple, aux États-Unis, la vague inouïe du « quit my job » qui concerne des dizaines de millions de personnes, des gens qui se sont dit « voilà, je ne suis pas heureux dans ma vie, ça ne m'intéresse pas plus de vivre comme ça, j'ai envie de changer de vie », et c'est vrai que c'est le sujet du livre, c'est le rapport finalement entre la gravité de ce qu'on peut vivre et le questionnement sur son propre épanouissement. Et il est clair que la pandémie a été un accélérateur très très fort. Alors après, c'est peut-être éphémère, peut-être que c'est pas pour tout le monde, peut-être que beaucoup de gens sont passés à autre chose, mais moi j'ai vu beaucoup de gens autour de moi qui justement après la pandémie sont devenus professeurs de yoga, sont allés vendre des fromages, ont totalement changé de vie. Peut-être que je vais arrêter d'écrire, hein. Je vais devenir joueur de paddle.
Ben vous aviez déjà changé de vie d'ailleurs.
Ah bon ? Quand ?
Ben vous étiez.
Vous me connaissez très très bien.
Hein. Non, mais vous êtes né écrivain. Vous aviez déjà une autre destinée professionnelle. Vous n'étiez pas écrivain, je dirais, dès l'âge de 20 ans, si ?
Ah oui, mais c'est pas vraiment changer de vie. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à écrire quand j'étais à l'hôpital. Alors j'ai écrit de nombreuses lettres. J'étais très romantique. Et puis, c'était un peu catastrophique. Mais puis après, j'ai commencé à écrire des nouvelles. Et je savais qu'à ce moment-là, alors j'ai aussi fait des études de musique, mais j'ai senti que j'arrivais à m'exprimer par les mots. Et je pense que l'essentiel pour chacun, c'est de trouver la manière avec laquelle on arrive à exprimer son intimité, ses émotions. J'ai senti que ça serait par les mots et j'ai senti que j'y serais soumis toute ma vie. Mais je ne me suis jamais dit à ce moment-là, je vais devenir écrivain, je vais publier, je vais pouvoir vivre de l'écriture. J'ai simplement senti que ça faisait partie de ma vie. Donc oui, j'ai fait plein de petits métiers pour gagner ma vie, plein de petits boulots pendant des années. Et puis j'ai envoyé un manuscrit à l'âge de 25 ans. J'ai été publié, c'est ce que je disais tout à l'heure, pendant des années, mes livres... malgré un succès critique et quelques prix littéraires, restaient très très confidentiels. Donc je faisais beaucoup d'autres petits métiers. Mais je n'ai pas considéré que quand j'ai publié ou quand après j'ai eu du succès, ou en tout cas la chance d'avoir la possibilité de vivre de cette passion-là, que c'était une bifurcation. Mais longtemps, j'ai jamais estimé que j'allais pouvoir vivre de ça. Ça a été pour moi une très grande surprise. Et en plus, je m'y suis pas. Quand La Délicatesse est sortie, c'est vrai que on m'avait dit voilà, maintenant tu as beaucoup de succès, tu dois faire toujours ce même type de livre. J'ai écrit après Charlotte en vers sur un sujet extrêmement douloureux. Puis après, je suis revenu avec une comédie, Le Mystère Henri Pic. J'ai jamais essayé de conserver d'une certaine manière le lectorat que j'avais pu acquérir. Et c'est vrai que c'est peut-être ce qui me touche le plus, c'est d'aller toujours dans des univers différents et d'être quand même globalement beaucoup suivi.
D'ailleurs, il y a ce personnage qui peut peut-être un peu vous ressembler avant dans le livre, qui est cet écrivain qui tente d'être publié, et puis finalement, il n'a pas, en tout cas, on n'a pas la suite de son parcours, mais dans votre livre, La vie heureuse, il n'a pas de succès au démarrage.
Ah oui, le mari de Amélie. Oui, puis il écrit un livre qui s'appelle Je vais bien, qui est un petit clin d'œil à un de mes romans, Je vais mieux. Mais à vrai dire, je me sens pas très proche de lui. Étrangement, je me sens beaucoup plus proche de Amélie. C'est peut-être ma part féminine qui existe dans ce personnage. Je pense qu'elle se sent assez coupable d'ailleurs de ne pas soutenir. En tout cas, c'est ce que lui fait son mari comme reproche. Mais oui, effectivement, j'aime beaucoup parler dans mes livres aussi du rapport à la littérature, aux livres. D'une manière générale, je parle beaucoup d'art dans mes livres. Je parle aussi beaucoup de peinture dans Vers la beauté ou Charlotte. Mais dans ce livre-là, tout comme j'ai pu le faire dans Le mystère Henri Pic, je raconte aussi la difficulté d'écrire et de publier et d'être confronté au désintérêt général. Alors, c'est pas forcément un écho avec mes premières années parce que pendant des années, moi, c'est vrai que j'avais très peu de lecteurs. Quand je faisais des salons du livre, tout le monde me demandait où étaient les toilettes, des choses comme ça. Donc, j'ai vécu tout ça. Mais alors, étrangement, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais j'étais très heureux. C'est-à-dire, peut-être que c'est lié à mon côté positif et à l'idée de ce que je disais tout à l'heure sur la maladie, la façon de voir les choses. Mais si, par exemple, je faisais un salon du livre et que je signais deux livres, je me disais que c'était extraordinaire de signer deux livres. J'étais pas en train de me dire, tiens... Jean d'Ormesson, on a signé 280 à côté de moi.
Faire fi de nos masques, on le disait juste avant, pour retrouver une forme d'authenticité, cette forme de liberté, c'est-à-dire que vous vous dites, j'écris et finalement, je ne colle pas forcément au genre qu'on pourrait attendre de moi sur un livre et puis je passe à autre chose. Est-ce qu'il y a une forme de travail à faire sur soi-même pour aller au-delà de nos illusions, pour traverser nos désillusions, qui peut être chez certains thérapeutiques, ou vous, c'est la vie qui, finalement, vous montre ce chemin pour aller au-delà de la comédie humaine ?
Alors, c'est drôle parce que c'est vraiment un des sujets du livre aussi. Bien sûr, ce travail pour pouvoir s'extirper des apparences, de l'illusion, en tout cas trouver l'épanouissement, c'est ce qu'on disait à travers ce rituel coréen qui est une petite partie du livre, hein, mais qui est un rituel moi, qui me fascine. Il faut imaginer qu'on est comme ça face à son cercueil, on rédige son épitaphe et puis on rentre dans le cercueil pendant une heure. Et donc, c'est une sorte de thérapie express qui alors fonctionne évidemment pas à tous les coups, mais qui peut être très très forte et très puissante et qui peut accélérer ce désir de changement et en tout cas qui peut-être met les choses vraiment en place dans sa propre existence. Peut-être que moi, vous avez raison, j'utilise l'écriture pour l'introspection. En tout cas, je sais que je suis obsédé par le mouvement. Je suis obsédé par l'idée de me dire que je ne dois jamais refaire ce que j'ai déjà fait. C'est pour ça que tous mes livres sont différents. Moi, j'ai plein de lecteurs qui vont pouvoir me dire « j'ai aimé celui-ci, j'ai moins aimé Deux Sœurs ou La Famille Martin ». Et je comprends tout à fait parce que j'ai un désir obsessionnel d'une forme d'infidélité à moi-même.
Alors, dans ce désir obsessionnel, on en parlait tout à l'heure, il y a aussi la beauté. Hein, la beauté qui est d'ailleurs dans le livre, vous dites que la mort et la beauté ne cessent de se répondre, qui est le thème central du livre. Et vous citez « Mort à Venise », ce livre évidemment culte, avec cette phrase « Celui qui contemple la beauté est déjà prédestiné à la mort », que vous transformez en cette phrase que j'adore, qui est « Celui qui contemple la mort est déjà prédestiné à la beauté », qui fait écho, j'imagine, à Montaigne, qui le tenait de Cicéron et de Platon, qui est philosophé, c'est apprendre à mourir. Alors cette beauté, comment est-ce qu'elle vous parle à travers vos romans et dans la vie ?
Oui, c'est vrai que c'est toujours lié à la même situation, c'est-à-dire le rapport à la mort que j'ai pu vivre et qui m'a propulsé vers la beauté. Donc c'est assez obsessionnel chez moi. Et c'est vrai que c'est aussi pour ça que j'ai été autant fasciné par Charlotte Salomon et cette peintre allemande qui justement s'est extirpée de la douleur, de la souffrance, de la folie, en allant chercher au plus profond d'elle-même la beauté, et qui a transformé cette souffrance en une source éclatante de création et d'inventivité. C'est pour ça qu'au départ, au début du livre, j'ai mis cette phrase, encore et toujours, de Charlotte Salomon, sur l'idée qu'il faut être mort une fois pour pouvoir aimer véritablement. Il y a ce passage qui me paraît vraiment nécessaire, peut-être, initiatique, de la contemplation de la mort ou de la souffrance, apprendre à mourir justement pour pouvoir pour pouvoir survivre d'une manière peut-être plus joyeuse ou en tout cas plus apaisée. Il y a cette phrase aussi de Kafka que je cite dans mon livre qui dit qu'il a passé sa vie à mourir d'une certaine manière. Et j'adore cette phrase. C'est vrai que c'est le sujet peut-être aussi principal de mon livre Vers la beauté, qui est la tentative d'une jeune fille de surmonter à l'effroi et à la mort d'elle-même d'une certaine manière par la beauté. Donc c'est vrai que c'est un thème qui traverse d'une manière assez incessante tous mes livres. Je me rends compte en parlant avec vous ce matin que finalement, je dis un petit peu toujours la même chose, dans le sens où c'est assez paradoxal de se sentir à la fois traversé par des énergies totalement différentes, contradictoires. J'adore plus que tout l'humour, les gens qui me font rire. J'ai essayé de faire des films avec de l'humour ou des livres. Et en même temps, certains de mes livres sont extrêmement douloureux. Mais plus on se parle, plus je me rends compte que finalement, tout tourne autour d'un noyau extrêmement restreint. Il y a différentes palettes, différentes variations, des variations vraiment en tous sens, si j'ose dire, du même noyau, de la même source.
Parce que cette beauté, on la retrouve aussi à travers cette statue de Rodin, et moi j'adore ce passage, c'est-à-dire qu'il y a un « je suis belle », une forme d'injonction qui lui tombe dessus, mais qui finalement est une injonction positive, qui est une épiphanie à elle aussi, une prise de conscience, comme lui a eu son épiphanie dans le cercueil, elle va vivre quand même à un moment donné cette épiphanie, elle va recevoir ça, hein, qui est issu d'un poème de Baudelaire, elle s'arrête net, et vous dites « ça devient un réconfort, une voix, une façon de reprendre confiance ». Et je crois que dans la vie, il y a des moments comme ça de grâce qui nous tombent dessus, où il y a un saisissement de l'émerveillement. Et c'est ça qu'elle vit, Amélie, à ce moment-là.
Complètement. Moi, je suis toujours en attente des livres, des œuvres, des peintures, en attente de cette émotion. J'ai le sentiment comme ça de vivre à travers le prisme de cette attente de l'émotion. C'est vrai que c'est un peu... je parle beaucoup, c'est vrai, dans mes livres, des œuvres qui me touchent, des peintures. Là, je viens de voir une sculpture exceptionnelle. Je suis allé à Rome avec ma fille et j'en suis assez, assez hanté depuis 2-3 semaines. Et je sais que ça me nourrit totalement. Alors, c'est un peu étrange parfois aussi de... C'est pas du tout égotique, hein, ce que je vais dire, mais c'est un peu étrange parfois aussi d'être de l'autre côté, c'est-à-dire que... C'est assez troublant par moments. Je reçois beaucoup de témoignages quand je fais des dédicaces ou des messages que je peux recevoir sur Facebook, par exemple, de personnes qui racontent comment un livre ou certaines phrases peuvent faire écho à des choses personnelles, des intimités, et que finalement, je me rends bien compte que ce qu'on peut dire de notre intimité à travers l'écriture, ça fait écho à ce que d'autres personnes peuvent ressentir, vivre. Et donc, il y a comme ça une sorte de communion émotionnelle, un peu surprenante parfois, parce que parfois, on me dit des choses que je n'avais pas du tout anticipées. J'ai un de mes livres actuellement, peut-être qui est le plus lu, plus que Charlotte, plus que La Délicatesse, c'est Vers la beauté, et notamment beaucoup par la jeune génération. C'est un livre qui parle de douleur, d'une agression sexuelle, un livre que j'ai écrit avant Me Too, en 2017. Et je me rends compte que je reçois des témoignages d'une force déconcertante. Moi, qui me rend à la fois heureux, mais aussi qui me déstabilise. Et donc, je peux. C'est assez étonnant finalement de vivre ce que moi je vis d'une certaine manière en allant vers les œuvres qui me touchent, les films, les peintures, les musiques que j'aime.
Et ça fait contraste avec ce personnage d'Amélie dont vous dites à un moment qu'elle arrivait très bien à scinder en deux son esprit. Elle plaçait un mur entre son présent et ce qui parasitait son présent. Et ça fait écho à ce qu'on appelle l'anesthésie émotionnelle, c'est-à-dire que beaucoup de personnes sont très performantes dans leur tête, dans leur volonté, dans le mental. On pourrait même aller jusqu'à dire l'ego, peu importe les mots que les gens mettent sur ces termes-là. Mais que cette partie, justement, de la beauté, de l'intériorité, de l'intime, peut-être moins présent. Et puis, d'un seul coup, il y a ce surgissement de la beauté qui fait que les deux peuvent à nouveau dialoguer. C'est ce qui se passe, en fait, chez elle, quand elle a ce saisissement avec la statue.
Ben c'est... Ça me surprend parce que j'ai dit tout à l'heure que je me sentais proche d'elle et je me rends compte que, effectivement, ça, c'est quelque chose d'extrêmement personnel. La possibilité de scinder. J'ai adoré votre expression d'anesthésie émotionnelle parce que je pense qu'on peut... On peut anesthésier d'une certaine part affective ou concrète de sa vie, et que peut-être que ça peut être aussi le contraire de ce que vous venez d'exprimer, c'est-à-dire anesthésier certaines choses pour libérer justement simplement la partie émotionnelle. Je pense que quand on écrit, moi c'est vrai que je suis un écrivain vraiment de fiction, j'essaie d'aller ailleurs, j'essaie de m'échapper de ce qui peut être difficile ou douloureux dans mon quotidien, et je suis capable, je crois, de cette possibilité de scinder les choses profondément. Peut-être que c'est mon côté scorpion, ascendant scorpion, l'ombre et la lumière, c'est-à-dire une sorte de double personnalité, qui est aussi marquée même physiquement, parce que j'ai une cicatrice suite à mon opération qui me coupe en deux. C'est quelque chose que je ne dis pas souvent, mais j'ai le sentiment comme ça de cette duplicité. Pas malsaine, hein, du tout, mais la possibilité d'aller comme ça... extirper certaines choses de son corps ou de son esprit pour pouvoir se libérer de ce qui nous parasite. Donc oui, elle, c'est le chemin inverse, vous avez raison, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle est une sorte de petit soldat obsessionnel, enfin en tout cas animé par un désir qui subitement lui paraît vain, et elle a été... C'est vrai que c'est douloureux ce qu'elle vit dans le livre. Ce sont des vies professionnelles. J'en parle pas souvent, en fait, de la vie professionnelle, mais là j'avais besoin que dans ce roman, puisqu'il y a au cœur du livre un rituel coréen qui peut paraître loufoque ou mystique ou un peu étrange, j'avais besoin de contrebalancer le roman par une énergie extrêmement concrète. Donc on la suit vraiment dans sa vie professionnelle. Elle est extrêmement abîmée à un moment donné par la violence des autres, par la violence de l'ambition des autres, par le jeu musical comme ça, des stratégies politiques. Et peut-être que cette souffrance-là lui permet de libérer ce qui était anesthésié jusque-là, la partie émotionnelle de sa vie. Et c'est vrai qu'elle va renaître par la beauté, symboliquement, vous l'avez dit, vous avez raison, par la découverte d'une sculpture au musée Rodin.
D'ailleurs, Amélie, vous avez parlé de Scorpion et d'ombre et lumière. Vous reflétez tous nos désirs paradoxaux dans plusieurs personnages, y compris ensuite quelqu'un d'autre qu'elle va rencontrer, qui est ce Ben, cet Américain, où nous sommes, par essence, dans une incarnation où nous sommes ombre et lumière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle est à la fois rassurée par les avances de son mari, mais aussi, s'il prenait une maîtresse, elle aurait la paix. Et ça pose toute cette question de nos désirs paradoxaux, avec tout ce qu'ils recouvrent de tabous en réalité, mais qui sont là. Je discute souvent avec un ami qui est psychiatre du côté de Lausanne, qui est aussi thérapeute de couple, mais médecin psychiatre, et qui dit, mais toute cette face cachée en fait de l'humanité que voient les psys, les thérapeutes, qu'on voit peut-être moins, vous l'exprimez très bien en fait, cette question du désir paradoxal.
Oui, ça, c'est des choses qui... Moi aussi, j'ai une amie thérapeute de couple. Mais c'est vrai que je trouve ça absolument passionnant. Alors, c'est vrai que j'ai parfois parlé de trajectoires amoureuses dans mes livres. C'est toujours important. C'est toujours, à un moment donné, assez présent dans mes livres. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu très souvent. Dans certains couples, au bout d'un moment, la question, peut-être, du désir ou de l'usure, ou je ne sais pas... certaines personnes se disent que ça les soulagerait finalement que leur partenaire aille vivre une autre vie. C'est toujours surprenant comme type de réflexion. Et c'est vrai que c'est ce qui se passe à un moment donné dans le couple entre Amélie et son mari. Mais très honnêtement, quand on est à ce stade-là, on peut imaginer qu'on n'est plus très loin d'une forme de rupture. Mais la sexualité, en tout cas dans ce couple, est très importante parce que c'est une forme aussi d'apparence ou de comment dire, oui, d'apparence de ce qui est vital ou ce qui marche dans le couple. Donc parfois il y a une mécanique de fausseté qui se joue dans leur vie sexuelle, et puis ça fait partie de toutes les désillusions, en tout cas du cheminement qu'elle va faire le long du livre pour pouvoir se libérer d'une certaine manière, de ce qui est lié à l'apparence.
D'ailleurs, la désillusion est véritablement, comme vous venez de le dire, le chemin lui-même. Parce qu'en réalité, ces oscillations du désir, du couple, posent cette question, qu'est-ce que l'amour et qu'est-ce que le couple ? Est-ce que c'est un état d'être qui serait toujours high comme au début, où finalement tout est relativement harmonieux ? Ou est-ce que c'est précisément cette danse avec soi et avec l'autre, où nous sommes animés, agités par un certain nombre on évolue en fait dans la vie, on change, on se modifie, on traverse des phases de métamorphose, on va le dire, parce qu'on est dans cette émission de cycle, et qu'on est à la fois toujours un autre et en même temps le même, mais qui danse comme ça avec la vie d'une manière différente. Est-ce que pour autant c'est forcément la fin ? C'est une vraie question.
C'est une vraie question et j'ai pas vraiment la réponse, à vrai dire. Parce qu'il me semble que j'ai beaucoup de mal, moi, à parler en termes de généralité. C'est vrai que là, je parlais plutôt, sur la réponse précédente, de ce couple dans le livre, des personnages. J'ai le sentiment qu'il y a une réinvention en permanence, que deux personnes créent un monde. Alors, il y a des choses vraiment, évidemment, qui reviennent, qui traversent. Il y a des phases récurrentes, j'imagine, mais d'une certaine manière, moi, j'ai le sentiment que un couple est une forme de création nouvelle, unique, autonome, étrange, parfois improbable, et que je me garde en fait très souvent de au-delà de faire des généralités, mais de pouvoir définir finalement cette improbabilité que forme l'union de deux personnes. Vous êtes déçu, vous auriez voulu une très bonne réponse. C'est vrai,
non,
j'avoue.
Non, pas du tout.
Jusqu'ici, j'étais tellement brillant, il faut effectivement renouer avec la médiocrité, quand même.
Non, justement, je trouve ça intéressant parce que ça reste des questions qu'on se pose tous. Et j'avais envie, à ce stade, peut-être de dire à celles et ceux qui nous écoutent, si vous avez envie de partager sur ce sujet, sur les réseaux sociaux, c'est aussi intéressant de comprendre ce que les uns les autres, dans nos vies, cheminons, ce que vous cheminez à ce sujet et peut-être de vous lire, voilà, peut-être de faire cette petite parenthèse. Ça pose aussi, ça interroge par rapport à ce qu'on vit, que ce soit dans le couple, au travail, et ça vous l'abordez à ces moments initiatiques, bon là qui est paroxystique puisqu'il s'agit d'aller, vous l'avez dit, dans un cercueil. Je ne veux pas non plus trop dévoiler tout le livre, mais vous interrogez ce poids de la culpabilité, de nos héritages, du poids du passé. C'est vrai qu'on retrouve tout à fait le processus d'individuation cher à Jung, mais aussi à d'autres thérapeutes. On va finalement s'interroger sur de quoi sommes-nous faits. Eric, votre héros, je l'ai dit au début, il a perdu son père, c'est douloureux pour lui. Est-ce que finalement on arrive à un moment donné à se libérer de ce passé où on est toujours fait de cela, de nos héritages ?
Oui, encore une fois... On ne peut pas, évidemment, faire de généralité sur les trajectoires, mais en tout cas, le cœur du livre, c'est justement, vous avez totalement raison, la libération de la culpabilité, de ce qu'on a raté, de ce qui nous obsède. On voit bien que ce personnage, on comprend au début, on ne sait pas ce qu'il a vécu, on comprend qu'il est écrasé par la culpabilité d'une certaine manière. Et ce qui m'intéresse vraiment, d'une manière générale, c'est d'aller travailler sur cette trajectoire et de la modifier. Donc je crois que c'est non seulement possible, mais c'est absolument nécessaire, c'est une question de survie. C'est quelque chose qui est très fréquent dans mes livres. Mon livre précédent alors, était très différent, puisque cela parlait du casting de Harry Potter. Donc on était dans un univers très éloigné, mais j'étais tombé sur l'interview de la directrice de casting qui racontait qu'à la fin, voilà, ils ont auditionné des centaines de jeunes acteurs, et qu'à la fin, il en restait plus que deux, et qu'ils ont hésité pendant des semaines. Et mon livre parlait de l'histoire de celui qui n'a pas été choisi, de l'autre. Et ce qui m'intéressait, c'était comment on peut surmonter un tel échec ? Comment survivre après cette sensation d'avoir échoué d'une manière extrême dans cette situation ? Et donc, c'était d'une certaine manière la même interrogation. C'est le long chemin qui fait qu'on peut se dire à un moment donné, est-ce que cet échec n'a pas une valeur ? Est-ce qu'il n'y a pas une vertu à l'échec ? C'est une façon aussi d'avoir un point de vue différent sur ce qu'on vit. Parfois, il ne suffit pas de radicalement prendre des décisions radicales qui font qu'on qu'on éradique ou qu'on fait table rase du passé, mais c'est avoir parfois simplement un regard différent, une autre analyse, un autre point de vue. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est possible de changer, oui, sa façon de voir les choses. Mais parfois, on entend, oui, enfin, dans des histoires, tout passe, tout, enfin. Il y a certaines expressions où les choses paraissent si simples alors qu'elles sont si, si compliquées. Par exemple, on dit qu'il faut tourner la page. C'est facile de tourner une page, mais quand on dit cette expression, en général, c'est extrêmement, extrêmement difficile ou lourd de tourner une page ou refaire sa vie. Est-ce qu'on peut vraiment refaire sa vie ? Il y a plein, il y a plein d'expressions comme ça dans notre vocabulaire quotidien qui expriment d'une manière un peu trop facile ou aisée la bifurcation ou le changement de vie.
Toutes ces réflexions que vous avez sur la bifurcation dans le livre, et puis là, quand je vous entends, sont vraiment intéressantes, parce que on voit bien que, comme vous venez de le dire, tout ne procède pas forcément de la volonté propre, mais qu'à un moment donné, il y a ce hasard, et c'est la fin d'ailleurs du roman, sans trop dévoiler, mais ils s'aperçoivent que tout procède d'un micro-détail, de quelque chose qui s'est passé à un instant T, d'une petite chute, d'une douleur au genou, et qui a entraîné en cascade un certain nombre d'événements, pour appeler ça des coïncidences, des hasards, certains d'autres peut-être des synchronicités, qui font que nos vies prennent ce tournant. Et ça, c'est absolument extraordinaire, d'une certaine manière.
Oui, vous avez raison, c'est un détail à la fin. C'est un genou. Donc c'est un livre très genou, en fait. Pour tous les amateurs de genoux, je pense qu'il y a vraiment un potentiel romanesque dans ce livre-là. Et je pense qu'il y a un gros public, un amateur de genoux. Mais moi, j'aime bien l'idée. Moi, ce que j'aime, enfin, ce qui m'excite le plus d'un point de vue romanesque, ce sont les détails, les choses qui paraissent absolument anodines. Ce sont parfois des virgules, des notes de bas de page.
Ah oui, vos notes de bas de page.
Ça, j'adore. J'en mets beaucoup. Je trouve ça très sexy dans un livre. Mais c'est tout ce qui n'apparaît pas d'une manière flagrante. J'adore l'idée que ce qu'on ne voit pas puisse se révéler absolument décisif ou déterminant plus tard dans un livre. Il y a quelque chose d'extrêmement romanesque. Ça nous arrive très souvent d'ailleurs de passer à côté de choses qu'on ne voit pas et qui finalement ont un sens. Peut-être que tout a un sens d'ailleurs. Une de mes références sur ce livre-là, La vie heureuse, c'était le film Quand Harry rencontre Sally, qui est un film que j'adore. Et c'était l'idée de... Comment dire, puisqu'on parlait de changement de regard, de point de vue, c'était l'idée de suivre un couple sur 30 ans avec des incompréhensions, en tout cas le sentiment de ne pas s'apprécier à 20 ans, puis se retrouver dans mon livre à 40 sans se comprendre, vivant des choses un peu étranges, et puis après se retrouver un peu plus tard encore et peut-être enfin se comprendre. L'idée que peut-être qu'il y a une lecture du hasard, il y a peut-être une signification à l'idée de croiser quelqu'un régulièrement dans sa vie. Est-ce que c'est pas... Il y a cette question dans mon roman de la préméditation. Est-ce que c'est pas déjà écrit ? Est-ce que c'était pas déjà voulu, notamment par Amélie, depuis le début ? Et j'aime bien cette question comme ça de la mise en jeu romanesque des situations.
D'ailleurs, puisque vous parlez des notes de bas de page, vous vous amusez bien avec vos notes de bas de page, vous adorez vous glisser dans les interstices. Parce que là, j'ai presque aucune comparaison, même si tant est qu'on puisse comparer un romancier à un autre, mais vos notes de bas de page sont totalement atypiques. Il y a de la drôlerie, vous amusez bien, j'ai l'impression, non ?
Alors, pas toujours, mais en tout cas, dans les notes de bas de page, c'est vrai que j'aime bien ça, je les trouve très, très sexy en bas d'une page. J'adore l'aspect visuel des romans. C'est très important, je travaille beaucoup, d'une certaine manière, les chapitres, l'agencement des chapitres, la taille des chapitres. Oui, vous avez raison sur l'idée que peut-être que c'est quelque chose d'assez personnel, et ça c'est le plus important quand on écrit. Moi je suis obsédé par l'idée de raconter une histoire. J'ai envie que le lecteur suive l'histoire, prenne du plaisir même à cette histoire, mais mon travail principal ça reste la langue, ça reste l'écriture, ça reste la particularité de la langue. J'ai aucun problème, moi, avec l'idée qu'on puisse ne pas aimer mon travail ou qu'on puisse ne pas y être sensible. Ça me paraît tout à fait normal. Mais en tout cas, il est évident que ce qui est le plus important, si on ouvre un de mes livres, c'est qu'on puisse se dire qu'on est vraiment avec moi et uniquement avec moi. Donc, je pense que ça concourt, mais je ne cherche pas à trahir cette particularité. Elle est extrêmement sincère. Quand j'écris, c'est vrai que je pourrais mettre les trois quarts du livre dans des notes en bas de page.
C'est ça.
Je pourrais d'ailleurs faire un livre que de notes. Tiens, c'est une bonne idée. Tiens, merci Anne pour cette idée matinale.
Oui, voilà, c'est ça. On retient l'idée de faire un livre qu'avec des notes de bas de page.
C'est pas mal, non ?
Je sais pas à quoi ça ressemblerait, mais ce serait drôle. Je veux bien en écrire une petite pour ce livre de notes de bas de page, ça me ferait rire. Alors, est-ce qu'on peut, on approche de la fin de cette émission, mais est-ce qu'on peut faire finalement des mauvais choix dans la vie ? Est-ce qu'on peut réussir ou échouer une vie ? Ça pose cette question.
Vous me demandez dans mon roman ou à titre personnel ? Parce qu'à titre personnel, je peux vous assurer que oui, on peut faire des mauvais choix dans la vie, ça, il n'y a pas de doute. On manque de lucidité, très souvent. Parfois, on a toutes les armes pour comprendre les choses, mais on passe ça au travers. Et puis, on les répète. Et on met du temps. C'est un long cheminement. Il y a des mauvais choix qui sont plus ou moins... longs dans les conséquences. Mais bien sûr, quoi, bien sûr. Et d'ailleurs, mes personnages, en tout cas, dans ce roman-là, font, à l'évidence, des mauvais choix. Et peut-être que ce n'est pas une question, après, de prendre des décisions, ou en tout cas d'agir de manière différente. Mais c'est d'appréhender ces mauvais choix en les acceptant. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut accepter de s'être trompé. De toute façon, on ne peut pas faire marche arrière. Je vais écrire dans un de mes romans que la seule manière de réussir sa vie, ça serait de la vivre à l'envers.
Est-ce que leurs mauvais choix ne sont pas une manière inconsciente de cheminer ? Parce qu'ils ont besoin peut-être d'apprendre certaines choses.
Oui, c'était vraiment le sujet du livre précédent, sur le casting de Harry Potter. Je crois beaucoup en la force de l'échec, en l'idée qu'il faut sûrement rater des choses pour pouvoir les réussir ensuite. Moi, j'ai eu un parcours très, très long, très évolutif, puisque maintenant j'ai 75 ans. Donc, ça a été un long, long cheminement.
Mais, quelle voix jeune vous avez quand même.
À vrai dire, je pense que j'ai évidemment beaucoup, beaucoup appris. Mais je me souviens aussi, c'est une façon d'être... je me souviens quand je faisais des petits boulots, que je faisais des photocopies pendant des heures, j'étais en train de me dire, mais quelle est la signification ? Qu'est-ce que je peux apprendre de ça ? Et je me disais, je n'apprends rien. Mais finalement, c'est peut-être aussi une façon de comprendre certaines choses. En étant comme ça, dans le sentiment de que tout ce qu'on vit ne soit pas dans une rentabilité émotionnelle ou intellectuelle. Vous êtes circonspecte. Pourtant, c'était une phrase très brillante, encore une fois.
Non, c'était une très bonne phrase, mais je me suis quand même demandé...
Alors, je précise que c'est de l'humour, hein, parce que si quelqu'un pense qu'il a un melon atomique, il se vante toutes les trois phrases. C'est genre d'humour très risqué.
Puisque vous approchez des 75 ans, je me suis demandé qu'est-ce que vous auriez envie d'écrire sur votre épitaphe pour résumer votre vie. Je vous renvoie le... Vous avez remarqué que pendant cette interview, je ne suis pas allée au cœur même du sujet parce que je n'ai pas voulu forcément dévoiler tout ce qui était autour du cercueil et puis de ce rituel en Corée. Vous en avez parlé, mais voilà, parce que j'avais envie de laisser ce plaisir aussi... à celles et ceux qui ne vous ont pas encore lu dans ce livre, La vie heureuse.
Oui, alors, je sais, j'ai lamentablement gâché votre discrétion et votre, votre souci comme ça d'attiser la curiosité. J'ai été vraiment ridicule sur ce point-là. J'en ai trop dit.
Non, mais ça nous donne envie quand même de lire. Alors sur cette épitaphe, est-ce qu'il y aurait quelque chose ? Je rappelle qu'en quatrième de couverture de votre livre est écrit « Jamais aucune époque n'a autant été marquée par le désir de changer de vie. Nous voulons tous, à un moment de notre existence, être un autre. »
C'est vrai, non ? Je crois, à part vous qui nagez en plein bonheur en Suisse, mais je crois que on est tous de plus en plus. Moi, je vois bien, par exemple, mais même professionnellement, c'est ce que je vois bien avec mes parents qu'on fait toute leur carrière dans la même boîte. Je vois très souvent, notamment avec la jeune génération, des gens qui restent 2-3 ans dans une boîte et qui ont envie de changer. Enfin, il y a un désir permanent comme ça de l'ailleurs qui est très très fort. Mais l'autre question, c'était sur l'épitaphe, c'est ça ?
C'est ça.
L'épitaphe, j'ai mis du temps, c'est vrai que le livre est sorti il y a 2-3 mois, on me l'a parfois posé cette question, mais je crois que j'adore l'astrologie et donc je mettrai quelque chose en lien avec l'astrologie. Peut-être que je mettrai mon horoscope du jour sur ma tombe. Ça vous paraît bien ?
Ça me paraît pas mal pour un scorpion ascendant scorpion. D'ailleurs, je crois que votre héroïne Amélie est gémeaux, hein, c'est ça, c'est pour ça que vous dites qu'elle est scindée en deux.
Oui, complètement. C'est une totale gémeaux. C'est marrant que vous me... Ah ben non, je ne vais pas vous dire ça, parce que... Enfin, si, je vais vous le dire. Mais je me demande si je ne vais pas écrire autour de ce thème-là. Là, je viens de commencer. Bon, bref.
Je trouve que c'est une bonne idée. Et puis peut-être que dans ce futur livre, vous nous donnerez le nom de cette statue à Rome que vous avez omis de nous... de nous dévoiler tout à l'heure.
Alors là, vous êtes très forte, hein, parce que je vois que vous m'avez écouté attentivement. Mais je pense que cette statue sera présente dans le livre.
Alors rendez-vous pour le prochain livre, et c'est une très belle conclusion. En tout cas, merci infiniment, David Fuenkinos, d'être venu dans Métamorphose. Évidemment que j'espère que vous reviendrez pour le prochain ouvrage, d'être venu échanger avec nous autour de votre dernier roman. Vous y montrez quand même que lorsque l'on reprend les rênes de sa vie, on peut aussi changer le monde autour de nous. Je rappelle le titre de ce livre, La vie heureuse, qui est paru aux éditions Gallimard. Merci infiniment.
Merci Anne, c'était un plaisir d'échanger avec vous.
Partagez, vraiment.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com.
Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Bonjour, c'est Anne Guéquière. Alors je suis ravie aujourd'hui de vous annoncer une grande nouveauté si vous envisagez de rejoindre la tribu Métamorphose. Vous le savez peut-être, la tribu c'est un moyen de nous soutenir financièrement, moyennant un petit abonnement mensuel. Votre soutien financier est très important car il assure l'indépendance et la pérennité de notre podcast. Et maintenant, en signe de notre profonde appréciation, l'adhésion à la tribu vous donne aussi un accès à nos programmes de coaching exclusifs Objectif Métamorphose, un bouquet d'une douzaine de programmes de coaching 100% audio que nous avons conçu avec des experts de renom pour guider votre évolution personnelle sur une gamme étendue de sujets comme l'hypersensibilité, le bien-être dans votre couple, la gestion de vos émotions ou bien l'enfant intérieur, le transgénérationnel, etc. En devenant membre de la tribu, vous ne soutenez pas seulement Métamorphose, vous investissez donc aussi dans votre propre parcours de transformation. Pour rejoindre la tribu, rendez-vous dès maintenant sur notre site Métamorphose Podcast, rubrique La Tribu. Un immense merci les amis pour votre fidélité et votre soutien.